Jérémie chapitre 2. Dieu qui a envoyé Jérémie pour adresser son peuple et leur montrer le non-sens de leur péché. Et il donne argument sur argument pour montrer le non-sens du péché. Le non-sens du péché. Les feuilles sont une aide. Si vous voulez suivre avec, vous pouvez. Si vous voulez juste écouter, vous pouvez. Donc, et en même temps, si vous remplissez les quelques trous, ensuite vous pouvez garder les notes et penser là-dessus à la maison. Donc, c'est la commune aide. Mais Jérémie chapitre 2. Et ce matin, plutôt que de lire tout le chapitre et ensuite retourner encore à travers, on va lire plutôt section par section et voir ce que ça veut dire. Jérémie chapitre 2, c'est à la page 568. Page 568. Et on va prier d'abord. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, tu haïs le mal, tu haïs le péché, Seigneur Dieu. Tu nous as créés à ton image et tu nous as laissé être des personnes libres, Seigneur. Tu as laissé Adam et Ève, Seigneur Dieu, en toute liberté, choisir de t'aimer ou choisir de se rebeller contre toi, aussi fou que c'était, Seigneur Dieu, avec la conséquence qui avait été avertie déjà, la mort, Seigneur Dieu, et ils ont choisi de prendre le mal pour le bien, Seigneur Dieu. Seigneur, et nous sommes nés dans le péché, Seigneur Dieu. Tu nous offres un salut parfait en Jésus, Seigneur Dieu, ce serait insensé de ne pas le prendre. Oh Seigneur, tu confrontes ton peuple dans le temps de Jérémie, Seigneur Dieu, avec les mêmes principes qu'aujourd'hui, on a la même nature de cœur, le péché c'est la même chose, toutes les tromperies, toute la folie que de poursuivre le péché, la tromperie du péché, Satan est le père du mensonge. Il est meurtrier, il veut détruire, mais il apparaît comme un ange de lumière. Oh Seigneur Dieu, ces choses sont tout autant pareilles aujourd'hui, en 2026, et je te prie que tu puisses m'aider dans ta grâce à bien exposer droitement le sens de ta parole et que les gens puissent vraiment prendre à cœur ta parole, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun, le besoin de ceux qui ne te connaissent pas encore vraiment comme Seigneur et Sauveur, de vraiment se repentir et croire en Jésus réellement. Et Seigneur, pour ceux d'entre nous qui professons, que ça soit plus qu'une simple profession de bouche, mais que ce soit la réalité du cœur et qu'on puisse mettre des jambes à notre foi pour obéir et pour grandir et pour continuer à apprendre à comment te servir et à renoncer au péché, Seigneur Dieu, qui nous distrait, qui nous ralentit ou qui nous fait chuter. Seigneur, on te prie donc que tu puisses toucher le cœur de chacun selon le besoin de chacun, Seigneur Dieu. Merci de ta parole, c'est pour tout le monde. Et je te prie donc que tu puisses m'aider à bien communiquer au nom de Jésus. Amen. L'exposition du non-sens du péché de Judas. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses dans votre vie là? Vous avez vu, vous avez témoigné quelque chose, vous dites, ça fait pas de sens, c'est un non-sens total. C'est complètement inutile. Eh bien, Dieu, il voit ça et il nous voit aller dans ce monde et il nous dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu a vu son peuple du temps de Juda et il se dit, mais Allah, ça ne fait pas de sens. C'est tellement dingue, c'est tellement stupide. Et c'est ça donc le sujet de ce matin. On commence. Jérémie chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va! Écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Là, il commence avec l'illustration là, de leur affection de jeunesse, là, comme des nouveaux mariés, comme Dieu était marié à son peuple, là, entre guillemets, puis son peuple, comme une nouvelle épouse, là, elle était épris de son époux, puis son époux, il était là pour prendre soin de sa chère épouse, puis, ah, c'était beau. Et Israël, Dieu les avait délivrés de l'esclavage, Dieu les avait pourvu tout ce qu'il fallait à travers le désert, et Dieu les a fait rentrer dans le pays promis. Et le peuple, à bien des moments, ils ont dit, oui, nous allons garder la parole de Dieu. La première génération, ces belles paroles de, oui, nous allons garder la parole de Dieu. Ils se sont consacrés, mais ça n'a pas duré. La deuxième génération qui est rentrée dans le pays promis, oui, nous allons garder la parole de Dieu. Je dirais peut-être un peu plus longtemps, mais ils n'ont pas fini le travail de vraiment être la main de justice envers tout le peuple dans le pays promis, Canaan, les Cananéens, qui, ça faisait des centaines d'années qu'ils accumulaient péché sur péché sur péché, que Dieu a voulu qu'Israël soit le bras de sa justice pour les juger complètement. Mais cet amour d'affection n'a pas duré longtemps, et il dit, mais tous ceux qui ont mangé les prémices, si Dieu était les prémices, puis tous ceux qui mangeaient les prémices, c'est-à-dire tous ceux qui te mangeaient, je les jugeais. Tu étais comme, ah, la prunelle de mes yeux, et je prenais soin de toi, que personne ne devait te faire du mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Verset 4. Là, l'abandon de son affection ou de son amour de jeunesse. Affection ou amour. C'est plus court d'écrire amour, j'avais le mot original affection, mais voilà, l'amour. L'amour de jeunesse. On va continuer à lire verset 4. Ça dit, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être même que néant? Dieu leur demande une question rhétorique. Vous savez ce que c'est une question rhétorique? C'est une question que la réponse est évidente. On n'a même pas besoin d'appeler parce que c'est tellement évident. Et Dieu dit, mais quel péché mon père ont-ils trouvé en moi? Qu'est-ce que je leur ai fait de mal? Je leur ai pourvu ce qu'il fallait pour manger, je leur ai pourvu la protection, je leur ai pourvu la pluie, le soleil pour les plantes, j'ai tout donné, je leur ai donné tout ce qu'il fallait. Je les ai libérés de l'esclavage, je les ai non seulement libérés de l'esclavage, mais les Égyptiens ont payé leur or, leur argent, tout pour les faire partir, ils sont partis riches. Quel mal.
Il a une mauvaise fée. Elle aussi.
Papa, ils sont tous la même.
Non, ils ne sont pas tous le même. Il y a deux femmes.
L'illustration.
Moi aussi, j'ai deux femmes. Oui, parce que.
Elle a 17, 18,
20,
moi,
j'ai 21, 22. Ah ben, je vais te regarder ici. Qui manque page 19?
Moi.
Qui n'a pas de page 19?
Moi aussi.
Caractère grave. devrait avoir une page avec Jérémie 2 caractère gras. Et l'autre page, il n'y a pas de caractère gras devant ou derrière. Et, vous avez, et l'autre page à la conclusion. C'est bon?
Oui, c'est bon.
Bon, désolé. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait ces erreurs-là. Donc là, on est sur la page Jérémie 2, caractère gras devant. OK?
On est sur le. Ça, c'est la première page.
Oui, la pagination de 20 et tout ça, ça peut être différent l'un pour l'autre.
Là, maintenant, je vous ai tout complètement perdu. C'est bon?
Donc, Jérémie 2. On est sur cette page-là. Jérémie 2, caractère gras. Et versets 4 à 7. Le non-sens d'abandonner le Dieu qui a fait tant pour eux. Et Dieu leur demande après ça, verset 6, quel genre de pays? Verset 6, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Est-ce qu'ils ont dit ça ou est-ce qu'ils... Non, Dieu était avec eux et Dieu leur a donné un beau pays. Ils n'ont pas donné. Est-ce que Dieu leur a donné un pays de sécheresse? Il leur a donné le Sahara, le pays promis. Allez, vous allez dans le Sahara. Puis en plus, ça va être couvert de nuages constamment. Ce sera des ténèbres. Ça sera. Non, un beau pays. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Voilà. Aux arbres fruitiers, l'ombre, ah, ah c'est beau, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Ils sont arrivés, puis les arbres fruitiers étaient déjà là, en train de donner du fruit. Et c'est merveilleux, c'était déjà tout prêt. Alors Dieu leur dit, quel genre de pays Dieu leur a-t-il donné? Un pays terrible, la sécheresse, l'ombre de la mort? Non, mais ce n'est pas un X là, le X est déjà mis là. Un beau pays, un pays de vergers. Oh, Dieu leur dit, mais quelle iniquité, pourquoi pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voici ce que j'ai fait, je vous ai donné un prix de verger, j'étais avec vous. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Dieu nous a fait du mal? Non, Dieu pourvoit la respiration, le mouvement et l'être, et nous pouvoir manger. Oui, il y a des complications dans nos vies, comme il y en avait à ce moment-là, on va voir. Mais ça, c'est nos péchés qui les causent, ces complications-là. Ce n'est pas lui qui les cause. Verset 8. Verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Alors, le non-sens. Bah, pardon. Verset 7b, on n'a pas lu 7b, pardon. Verset 7, on va relire verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Ça se peut que la seule chose auquel il fait référence par souillure, c'est toute leur idolâtrie et leur prostitution. Mais au minimum, pour l'illustration de la chose, on peut dire, eux, ils en ont fait une poubelle. Dieu leur a donné un beau pays, et eux, ils en ont fait une poubelle. Et ça, ça m'a fait penser à... Avez-vous l'impression parfois qu'on vit dans une poubelle? Les déchets partout. On conduit quelque part, puis l'auto devant ou l'auto derrière, on voit les déchets qui passent par la fenêtre. Voilà. Comme si on vivait dans une poubelle. Et voilà qu'ils avaient été donnés un beau pays et ils l'ont souillé. détritus partout. Verset 8, on a commencé à lire. Dieu était là. Dieu leur a pourvu les gens pour qu'il y avait la parole de Dieu, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas proclamé. Beaucoup de religions, les prophètes, les sacrificateurs, les dépositaires de la loi, mais ils ont détourné le peuple de Dieu. Dieu leur avait pourvu les personnes qui avaient la Bible. Vous savez combien d'églises à travers le monde, à travers la Guyane même, ne prêchent pas comme il faut la Bible, mais ils l'ont. Mais ils prêchent leur tradition humaine, ils prêchent d'être une bonne personne, ils prêchent leur la grâce, ils prêchent, oh, il faut gagner son ciel en faisant telle chose et telle chose et telle chose, vous méritez, donc ils boostent l'orgueil de l'homme. Il y a toutes sortes de manières de prendre la Bible et de la tordre pour détourner les gens de ce que c'est. Et pourtant, Jérémie, c'est la même chose, il y avait des gens qui avaient la Bible, mais ils n'ont pas fait connaître la Bible. Ils ont fait connaître les Baals, les idoles. Verset 9. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Dieu veut donc, hey, je veux communiquer cette contestation avec vous là. Et nous pourrons la lire aujourd'hui. Verset 10, il en appelle aux témoins. Passez aux îles de Kittim. Les îles de Kittim, c'est Chypre. C'est Chypre. Les îles de Kittim, c'est Chypre. L'île de Chypre. Dieu dit, les pays autour, je vous appelle en témoin. Il dit, c'est pourquoi je veux encore... Non, ça c'est 9. 10. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kedar, observez bien. Et regardez s'il y a quelque chose de semblable, s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Bon, les Romains, ils avaient leurs dieux, hein, les Romains, ils avaient leur divinité. Les Grecs, ils avaient leur divinité. Les Cananéens, ils avaient leur divinité, leurs idoles, Baal, etc. Les Chinois, etc. Tous les peuples autour, ils avaient leur dieu. Et est-ce que vous avez entendu que les Cananéens, ils ont jeté leur Baal pour adopter les dieux des Romains? Les Grecs, ils ont... qu'est-ce qu'on fait là? On adore des fausses choses. On va aller vers les dieux des Romains. Eux, ils n'abandonnent pas leurs fausses choses. Mais Judas, qui avait le vrai dieu... Ah non, on veut adopter des autres dieux. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Et ils vont échanger. Et Dieu dit, mais, Kittim, Kedar, est-ce que vous avez déjà vu ça, vous autres? Mon peuple, insensé, c'est faux, c'est une folie. Ils avaient la vraie chose, puis ils sont allés l'échanger pour des choses qui ne répondent pas. Sont d'aucun secours. Des idoles, il faut qu'on les construise, il faut qu'on les cloue, parce qu'autrement ils vont tomber. Ils ne peuvent rien faire. Ils parlent, on n'entend rien. Ils ne parlent pas. Ils font. Ah, mais on va se prosterner devant. Et Dieu dit, mais alors, ils ont perdu la raison. Alors, verset 11, dans vos notes là. Même les pays idolâtres n'échangent pas leurs dieux, ce sont des faux dieux. Mais Judas qui avait le vrai Dieu, il avait le vrai Dieu, l'échange pour un faux. Là, il appelle ensuite aux cieux, il dit, cieux, toutes les cieux, là, toutes les étoiles, les constellations, tout ça, là, voilà, et les images. Il dit, regardez, qu'est-ce qui se passe sur la terre, ça se peut pas, vous n'allez pas en revenir, vous allez tomber de votre ciel. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ah oui, un double péché, verset 13. Un double péché. Ce n'est pas suffisant d'en faire un, et il fallait qu'il le multiplie, le double. Qu'est-ce que ce double péché? Ils ont ils ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Un péché. Ils ont abandonné la source d'eau vive. Deuxième péché. Tiens, on va se construire des citernes crevassées qui ne retiennent rien. On va travailler pour rien. On va construire de quoi qui est inutile, parce qu'il y a des trous dedans et ça ne cadrera jamais d'eau, mais on va se faire ça. Est-ce qu'ils se sont dit ça? Non, ils se sont dit toutes sortes de choses. On va se faire des bonnes maisons, on va se faire des choses. Mais ça ne valait rien. Et Dieu dit, il se gratte la tête et dit, mais c'est... Oh là, c'est débile, c'est absolument débile. Ce double péché de se creuser ensuite des citernes crevassées qui ne retenaient rien. Verset 14. Et vous manque un trou? Dites-moi si vous. Ça va?
Oui, il manque un trou. La Bible 19. Le mensonge va donner une occasion pour quelque chose.
Tu es. Quel verset?
Le début là.
8 et 19.
Ah, 8 et 19. Très bien. Le non-sens d'abandonner le vrai Dieu pour des choses vaines ou vides. Vaine ou vide. Qui ne servent à rien. Ils abandonnent le vrai Dieu pour se tourner à des choses qui. Ça vaut rien. C'est comme échanger des euros pour de l'argent de Monopoly. Puis on s'en va au magasin avec l'argent du Monopoly. Puis il va dire, mais pourquoi tu amènes de l'argent de Monopoly pour acheter des choses? Ah ben, j'avais des euros, mais je les ai échangés avec un ami et j'ai pris cet argent de Monopoly. Le magasin, le chinois, il va dire, mais pourquoi t'as fait ça? C'est stupide. T'as changé des euros pour l'argent de Monopoly. C'est pour rien. Tu vas avoir recherché de l'argent, mais c'est trop tard. Et Dieu, il dit la même chose, mais vous avez fait quoi, là? Moi qui est la source d'eau vive, vous vous êtes fait des citernes crevassées. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Verset 14. Israël était-il esclave, un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Quel statut qu'ils avaient? Dieu, quand les a sortis d'esclaves, est-ce qu'il les a... Ils étaient esclaves hein, dans le pays promis? Non! Mais pourquoi ils sont pas en proie de toutes les nations qui viennent les rendre esclaves? Pourquoi est-ce qu'ils sont traités comme esclaves? Dieu les avait libérés. C'est eux qui se sont mis en esclavage à cause de leur péché. C'est une question rhétorique. Alors pourquoi est-il la proie? C'est une question rhétorique. Il n'y a pas de raison d'être une proie. Le non-sens d'avoir été libéré par Dieu de l'esclavage d'Égypte, devenir un pays, et là vous pouvez tourner la page. Peu importe votre imagination, vous pouvez tourner la page à la deuxième, c'est donc à l'endo de Jérémie 2. Et là, maintenant, Dieu les avait rendus un pays libre, puissant, et ils finissent par être une proie aux autres nations. Quel non-sens! Verset 17. Vous êtes là, verset 17, Jérémie 2, 17. Ça dit, en ce temps-là, chapitre 2, verset 17, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Dieu, il les avait dirigés dans la bonne voie, il les avait amenés dans un pays promis, il leur avait donné des bonnes lois pour que la société soit juste et bonne et agréable et productive. Dieu les dirigeait bien et ils l'ont abandonné. Et ils se sont rendus une proie au pays autour. Donc, c'est bonne, dans la bonne voie. Verset 17, le trou qui est là, c'est dans la bonne voie. Dieu n'amène personne dans une voie mauvaise. Il est bon, il est saint, il est juste, il est amour. Et nous, on le sait au fond de nous. C'est l'homme qui a tendance à appeler le mal bien et le bien mal. Mais on le sait au fond de notre cœur quand c'est le cas. Verset 18, Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Dieu était une source d'eau vive. Et là, c'est plus que juste l'eau qu'on a besoin ici-bas de boire. Jean 4, l'eau vive qui dure jusque dans l'éternité. Quelle source! Non, on ne veut pas du vrai Dieu, on veut ces idoles. Ces idoles nous restent. Ah, et on va aller en Égypte voir de l'eau du Nil. Allez, on va en Assyrie, ils ont des rives fleuves là-bas. Et Dieu le montre. Oui, oui, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Vous savez, la plupart des complications dans nos vies à cause du péché, ben, c'est le péché qui nous... c'est nos mauvaises actions qui nous châtent. On va donner un petit exemple. L'enfant qui désobéit, qui mange plein de bonbons et de chocolat, puis là, il y a mal au ventre. Il a pris toutes les choses qu'on avait de spécial pour longtemps, c'était pas pour tout en même temps. Ouais, ben, le mal de viande. T'as désobéi, t'as mangé ce que tu ne devais pas. Un petit exemple. Dieu dit, c'est ta méchanceté qui te punit. C'est ton infidélité que tu récoltes. Donc, verset 19, le châtiment, c'est de récolter les conséquences de sa propre méchanceté. Il s'auto-châtie dans un sens. Dieu permettait que les conséquences aient des punitions à leur voile. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Autrement dit, je ne veux pas avoir de responsabilité, je vais être libre de faire ce que je veux. Et là, allez, on va vers l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas juste bêtement se prosterner devant une statue qui ne peut pas répondre. Mais l'idolâtrie, c'était rattaché à beaucoup de l'immoralité. Les temples d'idoles, il y avait des femmes, des prostituées. C'est pour ça qu'ils aimaient l'idolâtrie. Parce que, en fin de compte, cette sorte de religion-là, ça leur permettait de s'en donner plein la vue et plein les sens. Ils aimaient l'immoralité. Verset 19b, excusez-moi. C'est ça que vous vous demandiez?
Non.
Quelques-uns se demandaient ça. J'en ai sauté un autre encore.
Pourquoi aller en Égypte?
Ah oui. Pourquoi aller en Égypte chercher de l'eau? Oui. En Assyrie aussi, avec Dieu, ils avaient toute l'eau vive dont ils avaient besoin. Quel non-sens. Quel non-sens. Aïe, aïe, aïe. Quel non-sens. Et ensuite, la 19b. C'est une chose mauvaise. De ne pas craindre. Excusez, on ne l'a pas lu, 19b. On va recommencer au 19a. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. La crainte de Dieu, c'est de prendre sérieusement Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu au point de penser que Dieu est un danger. Non, mais la crainte de Dieu, c'est de dire Dieu est un Dieu qui est bon, qui est saint, qui est juste, qui est tout-puissant. Et ce qu'il dit s'accomplit. Et qui suis-je pour ne pas prendre au sérieux ce qu'il dit? Il avertit de la conséquence du péché. Et moi, je fais le péché comme si de rien n'était, parce que je n'ai aucune crainte de Dieu. Ça vient de se faire sortir que la crainte de Dieu, c'est de prendre Dieu au sérieux Et quand on prend Dieu au sérieux, on va vouloir se tourner vers lui, lui faire confiance, lui obéir, lui plaindre et accepter tous ses bienfaits donnés par grâce. Mais la crainte de Dieu, ça va nous faire aussi ne pas vouloir pécher contre un Dieu si bon. Et ils ont dit, vous n'avez pas de crainte de Dieu. Donc, c'est une chose mauvaise de ne pas craindre Dieu. Et aujourd'hui, dans le temps qu'on vit, il n'y a pas grande crainte de Dieu. Tout est permis, il n'y a rien qui choque parce que les gens font n'importe quoi. Ils font ce qui leur semble bon. Et ils ne s'occupent pas vraiment de ce que Dieu en pense. Et Dieu haït cela parce qu'il sait à quel point ça ne fait pas de sens, c'est stupide. Il a créé des êtres à son image, intelligents, et qui rejettent leur intelligence pour s'adonner au péché, à leur plaisir. Et on voit le cœur de Dieu qui dit « Ah là là, j'aimerais tant leur bénédiction, j'aimerais tant leur... » Ah, et puis, qu'est-ce qu'ils font là? Donc l'idolâtrie, l'immoralité... Attends. C'est un non-sens, c'est se tirer une balle dans son propre pied.
C'est fou. Celui qui dit « Je me demande si ça fait mal. »
Ah, ça a fait mal. Ah, j'en ai connu qui ont fait des choses, peut-être pas avec une balle comme ça, mais avec quelque chose de dangereux. Et puis, comment ça fait mal?
Ah, bah, il y a des douleurs, ça fait mal.
Et là, on se demande, mais.
Allô? Il y a quelqu'un dans la tête, là?
Et Dieu, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le non-sens, c'est se tirer une balle dans son propre pied. Pas à conseiller. On va continuer à lire maintenant au verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. L'idolâtrie. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le monde est accro de ses passions éphémères. On le voit, on est en pleine période de carnaval. Et toute la société, tous les journaux, tous les pavillons, toutes les villes organisent toutes des choses pour le carnaval. Fêter la chair, la sensualité. Qu'on s'en donne à cœur joyeux. Dieu a fait le mariage entre un homme et une femme très bien. Où est-ce que ce serait un vrai amour? Où est-ce que le monsieur dit à la femme, je m'engage à te prendre comme une épouse et à veiller sur toi dans les bons et les mauvais jours, dans la maladie, dans la santé, jusqu'à ce que la mort ne sépare. Là, je vais alléger un peu. Mais, je vais veiller sur toi. Que ça c'est mon amour, de vraiment voir à tes besoins, de te voir, de t'accompagner. Et la femme qui dit, je reçois cette alliance avec l'engagement de t'aimer dans les bons et les mauvais jours, etc. Puis là, jusqu'à ce que la mort. L'engagement de la femme, c'est la même chose. Et dans ce contexte-là, où ce là, c'est pas un je vais prendre de toi ce qui me plaît, puis quand ça ne me plaira plus, j'en trouverai une autre. Ça, c'est pas d'amour. Ça, c'est la convoitise. Dieu n'a pas donné la relation conjugale pour que ça soit ça. Pour que ça soit de prendre. Vous savez, autant que moi, que Dieu a fait le corps merveilleux. Puis, il a donné des papilles gustatives qu'on puisse apprécier le goût des nourritures. Il a fait aussi que le corps humain, il y a des choses qui permettent qu'on en reçoive une grosse gratification. Mais il a donné dans le but que l'homme donne à la femme la gratification, la femme donne à l'homme. Mais c'est un don dans un contexte d'amour parce qu'on veille sur l'autre. pas juste pour ça, mais dans tous les besoins financiers, les besoins de santé, les besoins de soutien, etc. On aime la personne. Et dans ce contexte-là, waouh! Mais la société, ah, non, non, on veut la cerise sur le gâteau, en dehors de toute cette responsabilité-là, simplement pour prendre. Ça, c'est. Et ce monde, depuis la chute, est accroché à leur passion. À leur passion éphémère. Plutôt que de garder ces passions-là dans la légitimité d'une relation de fidélité conjugale. On va prendre un exemple très, très, très à jour. Les Olympiques. Vous regardez, c'est bon, on peut quand même apprendre du sport des bonnes choses et d'être motivé de voir quelqu'un qui essaie de donner beaucoup pour gagner une médaille. Bon, ça c'est une médaille corruptible. La Bible dit qu'on apprenne du sport ce qu'on peut appliquer à l'éternité. Ça c'est ce qui compte. S'exercer à la piété. L'exercice physique, c'est une bonne chose un petit peu, comme il dit Paul, mais s'exercer à la piété, c'est là qui est important. Mais donc on peut apprendre des choses du sport, mais les Olympiques. Je suis un petit peu des nouvelles, tout ça. Il y avait un article qui disait que, comme dans toutes les Olympiques dans les derniers, je ne sais pas combien d'années, les organisateurs, ils pourvoient des, je l'ai écrit là, mais 10 000, je n'aime pas même pas dire le mot, CONDOMS, gratuitement, pour que ça puisse se faire en toute, pas de maladie, pas de MTS, etc., puis pas de bébé qui en sort. Et ils trouvent ça très bien. Ils en ont distribué 10 000 gratuitement, 2800 athlètes, et là, il en manque. Après une semaine, ils n'ont même pas fini les Olympiques, et il en manque. Il faut qu'il y en trouve, il y en achète plus pour distribuer gratuitement. Alors, derrière la scène, tout le monde sait, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Enfin, eux, ils n'appellent pas ça des mauvaises choses dans l'article. Hein. Ils font ça avec un petit clin d'œil, que le côté social, ça marche bien pour eux. Ah, le côté social, non, c'est le côté immoral, le côté pervers. On est dans cette société. Et on a tous ce même genre de cœur, accroché à nos passions éphémères. Donc, les Jeux Olympiques, ça c'est le haut qui est là, les Jeux Olympiques. Et ça, c'est de ce monde. Et il n'y a rien de nouveau. Dieu regarde son peuple, c'est la même chose. Verset 21. Là, on va accélérer un peu. L'illustration agricole, il dit, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plant, comme tu as échangé, dégénéré en une vigne étrangère. » Donc, l'illustration agricole. L'illustration agricole. Dieu avait acheté une bonne plante. Puis c'était, en fin de compte, quand ça poussait, c'était pourri. Ça valait rien. Agricole. Ensuite, il donne une autre illustration. Verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre et quand tu t'emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, illustration chimique cette fois-ci. Il dit, tous les produits chimiques, même les plus forts, ne vont pas te nettoyer. Tu as une saleté qui est incrustée dans ton être, dans ton cœur. Oh là là, Dieu connaît la nature de nos péchés. Ce n'est pas un petit produit chimique qui va le nettoyer. Dieu dit, hey, on a vraiment besoin d'une solution très drastique. C'est la solution du sang de Jésus, qu'il explique plus tard dans la Bible. Donc, l'illustration, verset 21, agricole, verset 22, l'illustration chimique, verset 23, le déni de Judas. Il dit, comment diras-tu, je ne suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Comme un enfant qui a la lèvre blanche. Hein, vous savez ce que ça veut dire, une lèvre blanche avec un verre vide, il est bordu, lui. Et imaginez-vous un enfant qui a une petite barre blanche ici avec un verre vide à côté, il dit, non, j'ai pas bu du lait. Non. Et son peuple qui dit, oh, j'ai pas péché. Puis voyez les traces, voyez les marques dans le sable de leurs pas, le déni. Mais ça, c'est comme nous, hein. J'ai pas péché. C'est pas ma faute, c'est pas de ma faute. Ben, je suis pas
Il y en a qui sont pires que moi, je ne suis pas vraiment pécheur.
Ah, le déni. Le déni. Deuxième page. Là, l'autre page maintenant. Et on va aller assez vite à travers cela. Verset 24. Il dit, ânesse sauvage, habitué au désert, haletant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Là, il parle de l'illustration animale, cette fois-ci. Il parle d'un animal, d'un ânesse sauvage, dans sa chaleur. Hein? Et il dit, vous êtes comme ça. Verset 25. Oui? Question? L'autre page. Ça commence avec verset 24. Ça commence en haut de la page, verset 24. L'illustration animale. J'ai sauté quoi? Sur l'autre page avant? Ah, je n'ai pas péché. Excusez-moi, verset 23. Je n'ai pas péché. Ben, je suis content. Vous, ben, je ne suis pas content de ne pas bien faire les choses. Et je vois que vous restez avec moi, que vous cherchez à suivre. Puis c'est bien. Péché. Je n'ai pas péché. Non. Bon, maintenant, on est à la page prochaine, verset 24, l'illustration et animal. Ensuite, le verset 25. Il dit, ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers, je veux aller auprès d'eux, après eux. Donc là, Dieu, il les plaide avec eux. Hey, ne te dénue pas les pieds, ne te dessèche pas le gosier. Là, il y a deux références possibles. Soit qu'ils réfèrent que leur conduite immorale va les amener à marcher dans des airs exilés, qui usent la bouche sèche. Mais probablement plus, ça veut parler de... Ça réfère à enlever les pieds pour aller faire des choses sensuelles et se dessécher la bouche. De tous les côtés, on sait que c'est quelque chose qui a rapport avec ça parce que leur réponse est non, je ne veux pas ne pas le faire comme tu dis. J'aime trop ça, je veux aller après ça. J'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Verset 25 donc. La persistance à pécher. Verset 25b. La persistance à pécher. Non, je veux aller. Je veux. J'aime. Je veux. Persistance à pécher. Verset 26. Là, il les avertit de la honte. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, alors seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi et leur chef, leur sacrificateur et les prophètes. Le voleur ne rentre pas dans une maison pour pensant qu'il va être surpris. Là, quand il planifie son affaire, la maison est vide, il va y rentrer, et là, il découvre, ah, tiens, c'est un guet-apens, la police m'attend. Ah, non, qu'est-ce que c'est que ça? Et les autres aussi vont avoir la face surprise à la fin. Ah, le jugement? Le péché ne m'amène pas le bonheur que je veux. Et Dieu dit, c'est la confusion qui vous attend. Vous vous préparez à une grosse déception. C'est pour ça que j'essaie de plaidoyer avec vous, c'est, je vous fais réfléchir. Verset 27, il dit, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ils déifient ce que Dieu a créé. Et ça encore, c'est un non-sens. Ah, pensez-vous que ce n'est pas encore aujourd'hui? Les porte-bonheur, les pattes de lapin, les choses qu'on met sur le mur, quand on pense que l'horoscope, on lit le journal, toutes sortes de manières de penser superstitieuses, c'est la même chose, c'est un non-sens. Les gens se tournent vers des choses que Dieu a créées pour trouver leur bonheur, au lieu du Créateur. C'est un non-sens. L'horoscope, les porte-bonheur de toutes sortes, c'est très, très populaire. Savez-vous combien de livres occultes, les Harry Potter, les petits jeux pour enfants, qui sont des porte-bonheur, il y en a de toutes les sortes et les sources. Ça s'est multiplié dans les dernières 10, 15, 20 ans, ou 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça se multiplie, les petits porte-bonheur vendus comme nos enfants. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 27b. Viens-tu te revenir à Dieu juste quand ça va mal? Et ils ont dit là, car il me tourne, Ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Là, il y en a, j'en connais, qui se tournent vers Dieu seulement quand ça va mal. Et c'est la même chose. Et Dieu, il ne se laisse pas tromper. Quand les gens se tournent à Dieu seulement quand ça va mal, oh, ma vie commence à être mauvaise. Oh, ça fait quelque chose que j'ai pris de l'église. Je suis venu de l'église cette semaine. Ah, parce que là, ça commence à, je commence à manquer de sous dans le banc. Ah, et tout ça, je commence à avoir des difficultés. Je suis venu d'aller à l'église cette semaine. On se tourne à Dieu, ça commence à m'aller. Parce que, en fin de compte, on découvre que tout ce pourquoi on vit, ça ne marche pas. Mais Dieu, il dit, non, ça ne marche pas, ça. C'est superficiel comme retour à moi, là. Verset 29. Pourquoi contesterez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Là, ils ignorent tout ce que Dieu a fait. Les versets 30. Les châtiments ignorés, l'entêtement, l'endurcissement. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Verset 31, invitation à la considération. Dieu dit, hey, prenez le temps de réfléchir. Considérez. Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, hey, est-ce qu'on a vraiment réfléchi? Dieu nous invite à considérer. Invitation à la considération. Il dit, homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert, qu'un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Alors Dieu, il les invite à la considération.
Oups, considération.
Verset 31b, Dieu a-t-il été une source de désert, de peste ténèbres? Non, c'est un pays promis de lait, de miel, de lumière. Verset 31c, pourquoi ne veut-il pas retourner à Dieu? Ça, c'est une question encore rhétorique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de réponse. Bien sûr, il devrait. Le pur...
Non-sens encore. Le pur non-sens. Pourquoi? Pourquoi?
On va continuer, verset 32 de 31c, ou le pur non-sens, on l'a dit tout à la en bas de page, illustration des accessoires de beauté. Dit les jeunes femmes, c'est parfois des ornements. Vous sortez quelque part, vous allez les oublier. Hein, les deux filles. Moi, les garçons, temps de partir. Attends, quelques minutes. Ah, ouais, c'est vrai, là. Elle finit ses préparatifs. Mais c'est bout d'oreille, ses affaires. Dieu dit, la jeune femme, est-ce qu'elle va oublier ça? Non, c'est pas. Mais vous, vous m'avez oublié. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Dieu utilise l'illustration des accessoires de beauté, les ornements, la ceinture. Hein, Dieu utilise les illustrations de la vie de tous les jours pour dire, hey, réfléchissez dans la vie de tous les jours, vous n'oubliez pas ça. Mais là, vous oubliez la source de la vie. Vous m'oubliez, moi le Créateur. Dernière page. Verset 24. Non.
34.
Ah, 33. Oh, oui, je suis allé au début. J'ai retourné deux fois la page. La ceinture, donc Dieu a été l'ornement du choix de Judas, Dieu était comme l'ornement de Judas, puis il l'oublie. Versets 33 et 34, l'entêtement débrouillard et astucieux de Judas. 33, ça dit quoi? Ça dit, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Ouais, quand on est motivé, on va trouver une manière. Et eux, ils savent ce qu'ils voulaient. Et ils avaient trouvé une manière d'avoir. Vous en connaissez des gens comme ça? On peut tous se regarder dans le miroir et dire, ouais, on a tous cette tendance-là. Quand on aime quelque chose, quand on veut quelque chose, on va trouver une manière. Parce que nos cœurs sont tortueux et méchants, et on va trouver une manière de faire avoir ce qu'on veut. Peu importe si ça fait mal à d'autres, on va trouver une manière de penser que ça ne fait pas si mal que ça. Mais on va trouver une manière. Et Dieu dit, c'est ce que vous êtes, là, à la génération de Jérémie. Ils vont trouver une manière d'avoir ce qu'ils... Peu importe si ça fait mal ou pas aux autres autour, ils vont trouver que... Quand j'étais en Inde, pour eux, ce n'était pas péché à moins de faire spécifiquement mal à quelqu'un. Donc, ils trichaient sur leur femme, disant que je ne lui fais pas de mal. Je fais juste quelque chose à quelqu'un qu'elle ne sait pas. Mais Dieu n'est pas trompé par cela. Parce que tôt ou tard, ça finit par sortir qu'il a été infidèle. Et la chose qui était spéciale entre deux, ça a été donnée à un autre. Ça fait mal. C'est un mensonge de penser que ça ne fait pas mal si elle n'est pas au courant. Parce qu'elle va finir par être au courant, c'est certain. Alors, Dieu, il dit, quand on cherche à trouver notre manière, même si on se dit, non, ça ne fait pas mal à d'autres, que je peux le faire en secret, mais en fin de compte, ça fait mal. Le péché fait mal aux autres, ça finit toujours par faire mal aux autres. Et eux, ils disaient, on va trouver une manière. Jusque, verset 34, jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant infraction. C'est comme tu n'as pas vraiment une bonne cause, là. Quelqu'un qui vient voler, puis là, tu sais, on a défendu une de nos enfants et il y a du sang qui... Ah, ok, on peut comprendre. Mais là, il dit, là, tu as fait couler le sang et tu n'avais même pas de cause pour le faire. C'est la pure méchanceté. Verset 35. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Le déni encore. Ils ne veulent pas avouer. Ils veulent croire ce qu'ils veulent croire. Ne me confondez pas avec les faits. J'ai mon idée et je vais garder mon idée. Le déni. Verset 35, le déni, l'auto-justification. Certainement, sa colère s'en détourne de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. Donc là, après le déni, il y a alors 20 tentatives pour trouver des alliés en Égypte, en Assyrie, etc. Là, ils changent de camp pour... et c'est vain. Parce que l'Égypte, Dieu dit, ne leur aidera pas plus. La conclusion. Le non-sens. Le péché ne faisait pas plus de sens en l'an 600 avant Jésus-Christ qu'en 2026. Et chacun de nous, on est attiré par le péché. Et chacun de nous, on est stupide pour être attiré par le péché. Et Dieu nous dit, hey, réveille-toi, considère, réveille-toi. Dieu est un Dieu de vie, de bénédiction, de provision, de bonté, de source de la vie éternelle, l'eau vive. Ne pas se convertir à lui pour le suivre. Insensé. C'est insensé. C'est absolument stupide. C'est insensé. Se détourner de lui pour suivre la voie de ceux de nos péchés, c'est insensé. Le péché complique et amène aggravation sur aggravation, complication sur complication. On commence déjà à récolter le mal qu'on poursuit. On paye déjà des intérêts, comme pour dire. Ça commence à être lourd, mais on en retire encore beaucoup de satisfaction à poursuivre nos péchés. Même si ça fait beaucoup de complications dans nos vies. C'est la même chose du temps d'Israël. Au moment que Dieu parle, ils avaient encore leur pays. Oui, il y avait beaucoup de complications, mais ils étaient encore dans leur pays, dans leur capitale. Ils ne s'imaginaient pas ce que ça sera quand Babylone rentre et détruit tout, et en tue beaucoup, et les autres qui survivent, ils les prennent en esclavage en Babylone. Ils ne peuvent pas s'imaginer un temps si mauvais. Encore aujourd'hui. Là, le soleil se lève, se couche, la pluie, on a beaucoup de bonnes choses à vivre. On a beaucoup de complications dans nos vies aussi à cause du péché, mais on se dit, quand même, mais on ne s'imagine pas que Dieu veut nous avertir de la conséquence totale et finale, l'éternité séparée de lui, oh là là. Et donc, tout comme Judas, en ce moment où Jérémie leur donne la parole, ils étaient châtiés par Dieu, mais ils n'avaient pas encore connu ce que c'était vraiment l'anéantissement total de leur pays. Eh bien, nous aussi, on doit voir le péché qui nous empêche de dire à Dieu. C'est insensé de continuer à prier. Dieu veut qu'on se convertisse à Jésus. Dieu veut qu'on ne fasse pas juste profession, mais vraiment qu'on le suive. Et s'il y a des choses, même ceux d'entre nous qui professons le connaître, qui vraiment nous attirent, qu'on considère la chose et qu'on fasse ce qui est sage. De vraiment se détourner de nos péchés pour le servir. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, Et on te prie que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur. Merci pour la réflexion que tu nous amènes à faire, à cause que tu connais vraiment la nature du péché. On te prie, au nom de Jésus. On va terminer avec un court chant.